Merci Seigneur pour ces bons moments. Vous allez bien? Personne ne dort? Il faut que je vous raconte quelque chose d'assez drôle. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire dans la Bible de pendant que Paul prêche et il y a quelqu'un qui est assis au bord de la fenêtre et d'un coup il s'endort et il tombe et en fait il meurt et heureusement il ressuscite suite à la prière de Paul et d'autres, je pense. Et en fait, il m'est arrivé quelque chose de similaire dans une conférence Cœur du Père. Bon, pas aussi extrême, je ne suis pas mort, mais c'était assez... Peut-être d'ailleurs, il y en a qui sont dans la salle qui se rappellent de ça. En fait, c'était justement la session de l'après-midi. C'est pour ça que je suis très content de me retrouver à parler de la session de l'après-midi, parce que c'est souvent la session la plus dure pour moi, celle où je lutte avec le sommeil le plus. Et du coup, sachant que je suis devant vous, bon voilà, ça m'oblige à être en forme. Et c'est tant mieux comme ça, parce que ce qui s'est passé en avril dernier, c'est qu'on était dans la louange et c'était merveilleux, il y avait vraiment la présence de Dieu. Le seul problème, c'est que juste avant, Jonathan, donc qui était là hier soir, nous avait invité à un magnifique restaurant où on avait bien profité du repas, il y avait du bon vin, il y avait de la bonne viande, etc. On s'était bien fait plaisir. Et du coup, pendant ce temps de louange, je luttais vraiment contre le sommeil, quoi. Et du coup, j'étais assis sur un des rebords de la salle, et d'ailleurs, il y avait plein de matériel, il y avait des enceintes, des choses comme ça. Et voilà, et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est que je me suis endormi, tout simplement. Et du coup, la louange continuait, et en fait, je me suis réveillé en sursaut. Et du coup, pour faire genre, tout va bien, je ne dormais pas, tout va bien, d'un coup, je me lève. Sauf que vous savez, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand tu te lèves d'un coup, après avoir été comme ça, assis, et si tu es très fatigué et tout, en gros, je suis tombé dans les pommes. Donc, j'ai perdu connaissance, je suis tombé en arrière, du coup, là où j'étais assis, et il y avait des, je ne sais pas ce qu'il y avait, des cymbales, des trucs qui traînaient partout. Du coup, ça a fait un bruit incroyable. Et d'un coup, j'ai ouvert les yeux comme ça, et je me suis réveillé, du coup, ce bruit m'a re-réveillé de ma perte de connaissance, et je voyais plusieurs personnes tourner vers moi comme ça, me regarder avec des grands yeux. Donc voilà, écoutez, si vous entendez un grand bruit cet après-midi, pas d'inquiétude, peut-être que quelqu'un a vécu la même chose que moi, mais c'était un moment assez intéressant de cette conférence. Merci Seigneur, rien de grave. Mais voilà, écoutez, je suis content de pouvoir partager avec vous cet après-midi sur quelque chose d'un peu différent. Et du coup, je vous propose de remettre ce moment encore. Seigneur, vraiment merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est tellement précieux, Seigneur, ta parole, tout ce que tu nous dis est vraiment au quotidien, comme on peut être transformé par toi jour après jour par ta parole. Alors vraiment que ce moment, Seigneur, soit encore un moment où ta parole nous transforme, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et du coup, je voulais juste commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis un des responsables de l'église ici, Connect. Et pour commencer, j'avais vraiment à cœur de vous dire ceci. Vous savez, il y a ce verset très connu dans Jean 7, je ne sais pas s'il a été cité ce matin, je n'étais pas là, mais que si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, Jésus dit, et celui qui croit en moi, qu'il boive, car comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Et ce qui est écrit juste après, en disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croyaient en lui. Et en fait, c'est vrai que quand on est chrétien, surtout depuis longtemps, c'est vrai qu'il y a une routine qui peut s'installer. Et parfois, je ne sais pas si ça vous le fait, mais de temps en temps, on se dit, mais vraiment, est-ce que c'est ça que Jésus a pour moi? Vraiment, est-ce que c'est un peu, bon, il n'y a pas de métro à Montélimar, mais vous connaissez l'expression métro, boulot, dodo, la routine, voilà, je vis, je travaille, j'ai ma famille, etc., mes amis. Ah, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un diaporama normalement. Voilà, génial, merci. Du coup, en fait, on se dit, mais est-ce que vraiment c'est ça la vie que Dieu a pour moi, ou est-ce qu'il y a plus? Parce que quand on regarde justement la Bible et tout ce qui se passe et dans les évangiles et puis dans les actes des apôtres, on voit toutes ces miracles. Il y a une intensité de la vie de l'esprit à partir du jour de la Pentecôte. Il y a vraiment une explosion de l'Église de 3000, de 5000 et puis ensuite les nations entières jusqu'à nous. Et en fait, souvent, il peut y avoir ce décalage entre ce que Jésus nous promet et notre quotidien, où on n'a pas l'impression de vivre cette vie de l'esprit extraordinaire, de voir tant de conversions que ça, de voir tant de gens venir à Christ que ça. Et puis quand on voit le comportement des apôtres avant la crucifixion, puis la résurrection, et après, on se dit, waouh, ils ont vécu vraiment une transformation, ou derrière, ils ont vu des choses incroyables. Est-ce que moi, vraiment, j'ai vécu cette même transformation? Et c'est vrai qu'il peut y avoir vraiment des obstacles. Ça, c'est vraiment un des plans de l'ennemi. C'est vraiment de nous mettre des choses comme ça qui vont nous retenir comme des chaînes, comme des liens. Et on peut aussi comparer ça à comme des rochers qui obstrueraient l'écoulement d'un ruisseau. Vous savez, il y a des fois, les enfants aiment beaucoup faire ça, et moi, j'avoue beaucoup aimer ça aussi, des fois, faire des petits barrages quand tu arrives à un cours d'eau. Et c'est l'été, tu es avec tes enfants, et d'un coup, tu construis un barrage et tu essayes vraiment. Le but, c'est que le moins possible d'eau passe. Et du coup, mais évidemment, l'eau arrive toujours à passer entre les rochers, mais au lieu que ce soit l'écoulement normal du cours d'eau, eh bien, il y a ce petit filet d'eau qui passe seulement. Et c'est vrai que notre vie chrétienne, parfois, ressemble un peu à ça, où au lieu que ce soit vraiment un flot, comme ces fleuves d'eau vive que Jésus nous appelle à vivre, eh bien, il y a un cours d'eau qui est vraiment faible et qui est bon, qui est là, mais c'est pas extraordinaire. Et on se dit, purée, mais c'est pas possible, quoi. Seigneur, il doit y avoir plus que ça. Et du coup, on va regarder aujourd'hui un peu à certaines des choses comme ça qui peuvent obstruer la vie de l'esprit en nous. Et Olivier en a parlé il y a une seconde pendant la louange, mais je crois que ce qui peut nous aider vraiment à être libérés de ces choses-là, de ces choses qui obstruent nos vies, c'est vraiment la repentance. Vous savez que le mot repentance ne veut pas seulement dire demander pardon. Demander pardon, c'est la première étape de la repentance. Le mot vraiment repentance veut dire changer. En fait, ça veut dire changer. En grec, ça veut dire changer. Et en fait, ça veut dire changer de manière de penser, changer de manière de voir le monde, changer de manière de voir notre vie. Parce que vous savez que quand nos pensées changent, et bien là, nos actions changent. Et je pense qu'avant encore nos pensées, il y a vraiment notre cœur. Quand notre cœur est transformé par l'amour de Dieu, et bien là, ça peut influer sur nos pensées. Et du coup, ça va influer sur nos actions. Donc, on va voir... On va s'arrêter sur deux de ces obstacles, un peu deux de ces liens qui peuvent nous retenir aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais vous parler un petit peu de choses que j'ai vécues ces dernières années. En fait, j'ai une vie, je dois dire, extraordinaire. Des fois, vous savez, j'avoue que c'est un peu mon cas, des fois, je vois tout ce qui ne va pas dans ma vie, mais des fois, quand même, je prends le temps de m'arrêter et de dire, mais Seigneur, c'est incroyable la vie que j'ai. Merci, Seigneur, que je ne mérite pas d'avoir cette vie-là, avec une femme extraordinaire, avec quatre filles magnifiques, des amis géniaux, une église extraordinaire, mes parents, mes frères et sœurs. Enfin, je veux dire, c'est beau, quoi. Merci, Seigneur. Mais, comme beaucoup de monde, je pense... pendant la période du Covid, à peu près, je suis passé par une période difficile de ma vie, une période vraiment de déprime. C'était très très lourd, quoi. Certains qui me connaissent bien l'ont vu, l'ont vécu aussi avec moi. Mais vraiment, c'était très dur. Chaque matin, en fait, si vous voulez, quand je me réveillais, il y avait comme un nuage gris qui était là. Je me levais et d'un coup, mes pensées étaient négatives. Tous les matins, c'était pareil. Je me levais et waouh, comme un désespoir, comme un manque de goût à la vie, comme un manque de... Et vraiment, c'était pas fun, pas drôle du tout pour moi, mais aussi pour ma femme, mes filles et puis tous les gens qui m'entouraient et puis même dans l'église, quoi. Je veux dire, je pense qu'on est beaucoup à être passé dans cette période-là par une espèce de crise existentielle. Cette période a fait bouger pas mal de certitudes qu'on avait dans nos vies. Eh bien, voilà, c'était très dur, quoi, très dur. Et puis ça causait du mal aux gens autour de moi. Et un jour, ma Emmanuelle, ma femme, m'a dit, mais Il faut faire quelque chose. Tiens, pourquoi tu ne t'inscris pas à cette semaine de guérison intérieure qui se passe pas très loin de chez nous ? Et franchement, je vous dis, les amis, c'est vraiment le genre de truc dont j'ai horreur d'habitude. c'est vraiment le genre de truc où j'irai à reculons. D'ailleurs, j'y suis un petit peu allé à reculons. Mais j'étais tellement désespéré, j'étais tellement mal que j'ai dit, bon, allez, ok, je vous avoue qu'elle ne m'a pas trop laissé le choix quand même. Elle m'a presque inscrit de force. Mais c'est ça la joie du mariage, c'est qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et tant mieux, tant mieux. C'est comme un garde-fou qui est là dans notre vie. Merci, merci ma chérie pour ça encore. Et du coup, je me retrouve dans cette semaine avec tout un tas de personnes, moi en plus leader d'église. Alors le premier jour, très dur, on s'assied à table très académique et on étudie des sujets en fait, qui sont les sujets que moi j'enseigne ici à l'église le dimanche. Quoi. Donc si vous voulez, en plus de ce mal-être que j'ai déjà, on me rajoute un truc de « ok, tu viens là pour gratter du papier et pour apprendre des choses que tu connais déjà par cœur ». Et j'ai failli partir en fait ce jour-là, j'étais à deux doigts de faire mon sac et de quitter le lieu où j'étais. J'ai un caractère, j'avoue, un petit peu fougueux parfois, et impétueux. Et du coup, j'étais à deux doigts de partir et j'ai appelé une amie, la maman d'une amie en fait, qui avait fait ça il y a des années auparavant. Et je lui ai dit, écoute, j'ai très envie de partir là, si c'est ça la semaine, moi c'est hors de question quoi, c'est pas grave, gardez les sous, tout ce que vous voulez, mais je m'en vais. Et en fait, elle m'a dit, Mathieu, calme-toi, voilà. Elle m'a envoyé une vidéo YouTube d'un prédicateur. Elle m'a dit, voilà, écoute ça, mets-toi dans ton lit, juste médite et tout. Reste juste un jour de plus. Reste juste un jour de plus et après, tu verras. Et en fait, ben, j'ai dit, bon, ben, ok, je vais tenter ça. Et en fait, bon, merci Seigneur, dès le soir en fait, de cette journée-là, j'ai vécu un temps très fort avec Dieu et je suis resté. Et en fait, ce qui s'est passé, dans les jours qui ont suivi, en fait, il y a eu un exercice qu'il fallait qu'on fasse. C'était comme un exercice pratique où en gros on devait raconter un petit peu ben voilà, par rapport à notre vie, vous savez le genre de choses qu'on fait dans ce semaine là et on s'est rendu compte avec les gens avec qui je faisais cet exercice que beaucoup des soucis que j'expérimentais et beaucoup des raisons de mon mal-être venaient vraiment de ma petite enfance et même Dieu a révélé par rapport vraiment au contexte de ma naissance. Et voilà, et en fait, Dieu a révélé des choses dont j'étais totalement pas au courant, quoi. Et je me suis retrouvé à faire cet exercice avec un poupon en plastique dans les bras qui me représentait. Et moi qui tenais ce poupon, je représentais Dieu, le Père, et je devais dire à cet enfant que je l'aimais. Et les amis, c'était juste impossible. J'étais bloqué, j'étais vraiment comme paralysé, congelé sur place, plus rien ne pouvait sortir de ma bouche. J'avais ce poupon, la scène est bizarre, mais ce poupon en plastique dans les bras et j'étais comme congelé sur place. Et merci Seigneur, parce qu'il y a une équipe vraiment d'experts sur place. Donc si ce genre de choses vous intéresse, on peut en parler plus tard. Mais ils ont pu me conduire voilà, dans un temps de prière, de délivrance. Et mon cœur, qui était complètement bloqué, complètement insensible à ce moment-là, a pu recevoir l'amour du Père, comme se réchauffer et être vraiment touché. Et là, et en fait, pour vous dire, sans vous donner tous les détails, mais ce qui se passait en fait par rapport au contexte de ma naissance que j'ai réalisé, c'est que je suis le premier-né, moi, de ma famille. Et en fait, il se trouve que bon, c'était les années 80, le début des années 80, je suis arrivé dans le milieu évangélique en plus, je suis arrivé pile 9 mois après le jour du mariage de mes parents. Donc vous voyez un peu ce qu'il en est. La contraception dans ces périodes-là était un peu différente d'aujourd'hui dans les milieux chrétiens. Et en gros, ce que j'ai compris, c'est que mais j'avais jamais réalisé ça comme ça, mais que je n'avais pas, vous savez, on se dit, ah ben, on aimerait avoir un, deux, trois enfants, mais moi, j'étais arrivé comme ça, quoi. Et comme ce mensonge qui était venu à ce moment-là, que je n'avais pas été désiré, je n'avais pas été voulu, j'étais arrivé par le fait du fonctionnement de la nature, et ça, je ne l'avais jamais réalisé, et alors que j'ai réalisé ça, j'ai aussi réalisé que c'était une période pour ma famille qui était particulière et particulièrement pour ma maman qui elle-même était dans une période très très dure de sa vie, une période très traumatisante de sa vie. Et ça, pareil, je ne l'avais pas réalisé. Donc je suis arrivé non réellement voulu, non réellement désiré. Et en plus, ma maman qui m'a porté quand même pendant 9 mois, mais elle-même vivait des choses très dures. Et du coup, quelque part, j'étais aussi victime, par extension, de ce qu'elle-même vivait. Et du coup, ces deux choses-là, j'ai pu les réaliser. J'ai pu comprendre du coup les mensonges de l'ennemi qui étaient venus suite à ces traumatismes. Et on a pu vraiment briser tout ça au nom de Jésus. Et là, j'ai pu recevoir l'amour de Dieu et mon cœur a pu être vraiment touché. Et waouh, ce qui était énorme, c'est que j'ai pour le coup ressenti l'amour de Dieu au travers de moi. Et j'ai pu parler à ce petit poupon en plastique, lui dire qu'il était précieux, que je l'aimais, etc. Là, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de joie. Ça a été vraiment un moment de libération intense pour moi. Et ce qui a suivi aussi, qui était excellent, c'est qu'à la fin de cette semaine, après je ne voulais plus du tout partir de cette semaine. D'ailleurs, le jour où il fallait partir, je n'avais même pas envie de partir. Je voulais rester. J'aurais pu faire une semaine de plus. Mais juste après ça, ce qui a été extraordinaire, c'est que j'ai contacté ma maman. Et on aime tous les deux beaucoup la randonnée. On a pu partir une journée, tous les deux randonnées pendant 6 heures ensemble. Et parler. On n'avait jamais fait ça, en fait, de toute ma vie, j'avais jamais eu un moment comme ça avec ma maman où elle a pu me redire elle-même sa vie et puis ensuite le contexte de ma naissance et puis ensuite les années d'après, etc. Et waouh, quel moment de guérison incroyable. Et en fait, pourquoi je vous explique tout ça, c'est parce que ce que j'ai réalisé au travers de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses que je vivais toujours aujourd'hui, en fait, dans ces dernières années de ma vie, qui était vraiment du domaine de la peur, vraiment une peur du rejet. En fait, quand vous n'avez pas été vraiment désiré, vous vous sentez vraiment à l'aise nulle part. Et il y avait toujours cette peur du rejet, vraiment cette anxiété permanente d'être rejeté, d'être séparé, de ne pas être voulu dans un endroit ou dans un autre, et toujours comme se dénigrer soi-même parce que, et comme d'anticiper le rejet aussi. Et vraiment des peurs qui venaient sans cesse en moi et qui, même d'être rejeté par ma femme, rejeté par n'importe qui. Quand tu es comme ça, tu es tellement mal que tu as l'impression que même un brin d'herbe va te rejeter, quoi. Tu te sens rejeté par tout le monde et par n'importe qui et n'importe quoi. Et du coup, de ce moment-là, j'ai pu vraiment, waouh, l'amour de Dieu venant dans mon cœur, ça a été comme une guérison. Et il y a vraiment eu un avant et un après, quoi. Et je suis sorti de cette semaine vraiment avec un niveau de liberté que je n'avais jamais connu auparavant. Et ça, c'est merveilleux. Merci Seigneur. Donc voilà, je voulais vous partager ça parce que pourquoi on fait cette conférence ? C'est parce qu'on a envie de vivre ça. On n'a pas envie d'aller fouiller. Non, on a envie de faire confiance à Dieu, le Dieu d'amour qui vienne guérir nos cœurs pour qu'on puisse aussi, nous, ensuite, être un instrument de libération pour d'autres. Voilà, Jésus, quand il a quitté la terre, il a dit à ses disciples, allez faire des nations, des disciples, et quelque part, ça voulait dire, allez faire des nations, des gens qui sont comme moi, donc des enfants de Dieu. Allez faire des nations, des enfants de Dieu. Et on a envie de faire des disciples, on a envie de partager l'amour de Dieu autour de nous. Mais c'est très difficile, si nous-mêmes, on n'est pas guéris, de pouvoir donner envie, en fait, aux gens. On se retrouve rapidement, comme Joe l'a dit hier soir, dans la position du fils aîné. En fait, on ne donne pas du tout envie aux gens de connaître Dieu si nous-mêmes, on n'est pas guéris. Et c'est Simon qui nous disait souvent cette phrase que des gens guéris les autres, mais des gens qui sont blessés, et bien, en fait, ils blessent les autres. C'est pour ça que notre guérison est importante pour nous déjà, mais bien sûr aussi pour les autres. Amen. Et du coup, je voulais lire ce passage avec vous dans Jean 8, si vous avez vos Bibles, à partir du verset 1. Et on dirait pas que ça a à voir avec vraiment la peur, mais ça m'a vraiment parlé. Donc je crois que... Attends, j'ai la télécommande. C'est là. Tac. Voilà, magnifique. Vous l'avez à l'écran. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers. Mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui alors qu'il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas ? En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Mais Jésus se baissa, se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leur question. Alors, il se releva et leur dit, « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec cette femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs ? Personne ne t'a condamné ?»« Personne, Seigneur, lui répondit-elle. » Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais ne pêche plus. » Waouh. Du coup, vous connaissez bien, je pense, pour la plupart, ce passage. Et du coup, est-ce qu'il y a le plus peur dans ce passage ? Et du coup, vous savez que la peur, c'est une des quatre émotions principales. Les quatre émotions principales, c'est la joie, la tristesse, la colère et la peur. Mais en fait, si on regarde bien, il y a vraiment de la peur de partout dans ce passage. Bien sûr, la femme est sur le point d'être lapidée. Donc je pense qu'elle est vraiment terrorisée. Elle est mise publiquement, on dévoile son péché, on dévoile ce qu'elle a été mise et ce qu'elle a fait. Et du coup, il y a énormément de violence dans cette scène pour cette femme qui se retrouve là, mise en accusation publiquement. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais... L'homme qui était avec elle en train de commettre cet adultère n'est lui pas présent. Donc en fait, c'est vraiment elle qui doit supporter le poids de la culpabilité de cet acte, de ce péché. Donc évidemment, elle a très très peur, elle est terrorisée. Mais je pense qu'il y a d'autres personnes en fait qui sont peur et c'est peut-être un peu plus insidieux dans ce contexte. Les pharisiens qui sont là, je pense que s'ils agissent ainsi, c'est aussi parce qu'eux ont peur. En fait, la loi pour les pharisiens, vous savez, c'était vraiment ce parti en fait, juif, parti politique juif, qui était vraiment très à cheval sur la parole de Dieu, la Torah, qui la connaissait par cœur. Et en fait, c'était vraiment des enseignants. Et en fait, ils trouvaient vraiment leur raison d'être, c'était cette loi. C'était vraiment ce sur quoi ils basaient leur identité, même leur travail. C'était ça qui c'était leur gagne-pain quelque part. Et ils avaient, du coup, oui, ils étaient à fond sur cette loi, vraiment, c'était ça qui les définissait. Mais du coup, par inversion, ils avaient vraiment ce dégoût du péché, j'ai envie de dire, de manière très ostentatoire, vraiment publiquement, cette femme qui fait ça, vraiment, oh là là, le péché, c'est très mal, que dit la loi ? Ils étaient vraiment... Et quelque part, on peut se rendre compte au travers de ça qu'il y a une peur du péché qui est là. Pourquoi ? Comme si ce péché pouvait les empêcher d'être unis à Dieu, comme si ce péché pouvait les séparer de Dieu. Et bien sûr, on sait que c'est le cas, le péché nous sépare de Dieu, mais du coup, ils mettaient ça à une telle place que ça les séparait quelque part de Dieu. Ils étaient sur la lettre, ils étaient sur la loi, mais leur cœur était en fait fermé à Dieu. Et en fait, cette loi leur permettait de contrôler le peuple. Vous savez, on parle souvent du légalisme. C'est vraiment ce fait de baser toute notre confiance sur la loi, de dire voilà, il faut ici, c'est tout, tout est sur la règle. Et malheureusement, c'est terrible, mais et c'est vrai, ça me fait penser aussi à ce que je disais hier soir. Malheureusement, nous chrétiens, on peut souvent, si vous rencontrez des gens qui connaissent pas Jésus, souvent quand tu parles de ta foi, et ça m'est arrivé encore récemment, j'étais dans un Blablacar et j'avais cette super discussion avec mon conducteur sur la foi. Et il me disait, ah oui, donc vous, les protestants, donc vous ne faites pas ci, vous ne faites pas ça. Et en fait, il décrivait notre foi en termes de ce qu'on n'avait pas le droit de faire. Donc quelque part, il y a des relents de ça aujourd'hui. Et du coup, les pharisiens qui sont dans cette peur de déplaire à Dieu, peur aussi, je pense, de ne pas être de bons héritiers d'Abraham, vous savez, c'est vraiment leur fierté, tout ça. Et qu'est-ce qu'ils font ? Et là, il y a une manifestation vraiment concrète de la peur. Ils sont vraiment dans ce jugement. Ils sont dans ce jugement de cette femme qui a été prise en flagrant délit. Et on les voit la condamner pour ses actes. Et vraiment, c'est eux qui prononcent la sentence, quoi. Ils ont une sentence dans leur cœur, ils la prononcent, ils demandent à Jésus, qu'est-ce que tu en penses ? Mais pour eux, réellement, elle est déjà condamnée. Elle est déjà condamnée et elle mérite de mourir. Et en fait, le jugement, c'est une des manifestations vraiment de ces peurs profondes, identitaires qu'il y a en nous. Et Jésus, bien sûr, nous met en garde contre ça. Il nous dit dans Matthieu, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du même jugement que vous avez jugé et on vous mesurera de la même mesure dont vous avez mesuré. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère tandis que tu ne vois pas la poutre dans ton œil ? Il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit « Ne juge pas quelqu'un parce qu'il pêche différemment de toi ». Et en fait, le jugement, il vient dans nos cœurs quand on a cette peur et ce problème d'identité. Et comment on sait qu'on est dans le jugement ? Ben souvent, on va voir que c'est des moments où on se sent supérieur à la personne ou alors on se sent inférieur à la personne. Et là, on va critiquer, là, on va juger. Et il va venir dans notre cœur des choses telles que « Ah mais moi, je n'aurais jamais fait ça. Moi, jamais je ne connaîtrai d'adultère. Moi, jamais je commettrai tel ou tel péché. » Ou alors « Ah mais oui, mais lui, c'est normal qu'il ne fasse pas ci ou ça. C'est normal avec tout ce qu'il a, c'est normal. » Et c'est comme si on se mettait à la place de la personne, mais vraiment dans le faux. Et on ne réalise pas qu'en fait, on ne sait jamais. On ne saurait jamais, nous, si on était dans la même situation, comment on réagirait. Et des fois, vous savez, le problème du jugement, la complexité du jugement, et parce qu'en tant que chrétien, des fois, on spiritualise beaucoup les choses, et ça ressemble des fois à du discernement. Ça ressemble à du discernement. Évidemment, cette femme a péché, oui. Donc, quelque part, ils ne se trompent pas. Ils font le bon diagnostic de la situation. Mais vous savez ce que c'est, là, et c'est lié, c'est pour ça, tout ce week-end, quelle est la différence entre le discernement et le jugement ? C'est que dans le jugement, il n'y a pas d'amour. On peut discerner, on peut y voir clair dans l'esprit, on peut voir les choses clairement, avoir des révélations de Dieu. Mais dès qu'on n'a pas l'amour en nous, et bien là, ça se transforme en jugement. Là, il va y avoir cette supériorité, là, il va y avoir cette infériorité. Et là, on va blesser les gens encore plus en les mettant, vraiment, en les condamnant tout simplement, en les condamnant, comme si c'est nous qui savions toutes choses, toutes les circonstances de la vie des personnes. Et ça m'est arrivé aussi récemment avec un membre de ma famille qui avait fait quelque chose et j'étais tellement en colère, je ne comprenais pas, je me disais mais comment elle a pu faire ça cette personne ? Tellement en colère, je me rappelle de crier à Dieu, de dire Seigneur mais c'est pas possible. Et alors que je faisais ça, alors que je criais à Dieu, parce que ben voilà, j'étais vraiment blessé par tout ça, et ben Dieu m'a en fait ouvert les yeux et rappelé qu'il y a quelques années, pas mal d'années, j'avais fait des choses similaires. Et là, tout de suite, j'ai dit, mais Seigneur, pardon, pardon, qui suis-je ? Qui suis-je pour me placer en juge ? Alors que moi-même, je ne suis pas meilleur. Moi-même, il y a quelques années, j'ai fait des choses similaires. Et c'est extraordinaire parce que on voit Jésus, évidemment, son attitude à lui, qui est totalement opposée à celle des pharisiens, lui qui connaît aussi la loi par cœur, par cœur. Mais qui se met quelque part du côté de cette femme qui est vraiment remplie de compassion, qui vraiment vient et se met entre les pharisiens et cette femme comme un avocat et qui regarde la situation avec les yeux de l'amour, qui regarde la situation avec les yeux de la souffrance et qui regarde aussi la situation avec quelque chose de très pragmatique. Parce que le problème de la loi, c'est qu'elle est très théorique. Mais souvent, dans le concret des situations, ce n'est pas si simple que ça, d'appliquer la loi, ce n'est pas si simple. Et lui, il sait bien que tous les hommes qui sont présents dans ce lieu, eux non plus ne sont pas parfaits, eux pêchent. Et il ramène vraiment ce standard de la loi au standard de l'amour. Et du coup, cette femme, ce qui est extraordinaire quand l'amour vient, c'est qu'il y a ce côté, à la fin, il dit « va et ne pêche plus ». En fait, l'amour, la grâce de Dieu est positive dans le sens où elle permet de sortir du péché. Là où les pharisiens viennent et enfoncent cette femme et quelque part aggravent son cas, Jésus offre une porte de sortie, une porte de sanctification, oui, mais par l'amour, par vraiment une nouvelle vie qu'il offre à cette femme. Amen. C'est pour ça que le jugement, c'est vraiment quelque chose qui peut facilement venir dans nos cœurs et surtout quand on n'est pas vraiment sécurisé dans notre identité en Christ, quand on n'est pas vraiment sécurisé dans l'amour du Père pour nous. Donc ça, c'était vraiment sur le côté jugement, mais maintenant, si on doit... Je ne sais plus ce que j'ai mis sur mon PowerPoint. Voilà. Maintenant, si on doit vraiment se focaliser sur la peur, vraiment cette peur qui est dans cette femme, dans ces hommes, qui est peut-être parfois dans beaucoup d'entre nous, la peur, c'est vraiment le grand but de Satan. En fait, si vous réalisez, il y a deux forces principales qui s'opposent dans l'univers. C'est la peur et c'est l'amour. Et en fait, la peur, c'est le grand but de Satan. Satan a chuté, il a été chassé de la présence de Dieu. Et en fait, il y a cette séparation qui a été mise entre Satan et Dieu. Et depuis ce jour-là, lui essaye de créer la même séparation entre les hommes et Dieu. Il met tout en œuvre pour que nous aussi, nous soyons séparés de Dieu. Et que c'est vraiment les effets dévastateurs de cette distance relationnelle puissent venir vraiment nous écraser, puissent vraiment nous priver de cette liberté, de cette glorieuse relation avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, mais aussi dans les relations avec les gens proches de nous, quoi. L'ennemi est vraiment... il veut vraiment attaquer ses relations. Et ça m'a marqué, j'entendais ça l'autre jour et j'avais jamais réalisé. Vous savez, quand Adam et Ève pêchent dans le jardin d'Éden au tout début, qu'est-ce que dit qu'est-ce que dit Dieu quand il se met à les chercher? Il ne dit pas « Adam, qu'est-ce que tu as fait ?» C'est pas ça qu'il dit. Il dit « Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu ?» Parce que déjà, le Père est en train d'essayer de restaurer la relation avec son fils bien-aimé et sa fille Ève. Donc, il n'est pas focalisé sur ce qu'ils ont fait, il est focalisé sur eux, sur les retrouver, sur être à nous. Et je pense, je le crois, que si à ce moment-là, Adam et Ève avaient dit « On est là, pardon, pardon pour ce qu'on a fait. » Il y avait une seule règle à obéir dans le jardin d'Éden, on n'y a pas obéi, pardon. Eh bien, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. L'histoire, je pense que le Dieu d'amour et de grâce aurait fait grâce et peut-être l'histoire de l'univers aurait été complètement différente. Peut-être pas. Mais en tout cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en Jésus, c'est possible. En Jésus, on peut être totalement restauré dans notre relation avec le Père. Amen. Donc vous savez qu'il écrit 365 fois environ, je vous avoue, je n'ai pas compté, mais j'ai vu ça et c'est merveilleux, 365 fois dans la Bible, ne crains pas. Donc en gros, pour chaque jour de ta vie, il est écrit « Ne crains pas » dans la Bible. Ésaïe 41, verset 10, c'est vraiment un verset qui nous a parlé récemment encore dans notre famille. « Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. » Et franchement, dans notre société, la peur est de partout. La peur est de partout. Merci Seigneur, bon, des fois je râle un peu, mais merci Seigneur, on n'a pas de télé à la maison. Mais heureusement, des fois je me dis, je vois la télé chez mes patients, je suis infirmier à domicile, donc je regarde un peu la télé chez mes patients. Dès que vous allumez la télé, la peur est de partout en ce moment, mais c'est de la folie. Que ce soit les guerres de partout, que ce soit les faits divers horribles, plus horribles les uns que les autres, le harcèlement, etc., de partout. Même notre fille qui est rentrée au collège cette année nous dit « Mais voilà, maintenant c'est le harcèlement, c'est ci, c'est ci. » En fait, on est tout le temps sur nos gardes en permanence, que ce soit à la télé et la radio. Donc il y a tellement d'occasions d'avoir peur, en fait, aujourd'hui. Mais en plus de ça, il y a aussi des peurs plus profondes qui nous touchent un peu dans trois domaines de notre vie. Déjà dans le domaine avec les autres, dans nos relations, dans nos familles, avec par exemple, il peut y avoir des peurs, oui, de perdre nos conjoints, de perdre nos enfants. Et le problème, c'est que ces peurs, comme je vous ai dit, je vous ai partagé mon témoignage au début, vont avoir une influence sur notre comportement. Par exemple, si tu as peur pour ta famille, tes enfants, eh ben, tu peux être surprotecteur ou étouffant. Si tu as peur de... Il y a beaucoup de chrétiens ont peur de perdre leur salut. Ça va te mettre dans une anxiété perpétuelle, une peur perpétuelle de perdre ton salut, de perdre l'amour de Dieu pour toi. Beaucoup ont peur des personnes en position d'autorité. Du coup, ça va toujours te mettre dans la crainte. Ça va toujours biaiser les relations entre les personnes d'autorité sur toi et toi-même. Beaucoup ont peur de l'intimité. Et du coup, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer de la fuite ou ça va créer de la froideur relationnelle. Beaucoup, c'était vraiment mon cas, vont avoir cette peur d'être rejetés abandonner. Et quel va être le mécanisme de défense? Et ben, eux-mêmes vont rejeter, eux-mêmes vont abandonner, en fait. Pour se prémunir de ça, ils vont le faire aux autres. Et parfois, ça peut être la peur que nos péchés, comme cette femme, soient exposés. La peur d'être seul, qui est vraiment terrible dans notre société, où on n'a jamais été aussi connecté, mais les gens n'ont jamais été aussi seuls. La peur de souffrir qui va conduire au contrôle, la peur d'être persécuté, la peur du surnaturel, peur de la mort, j'ai dit. La peur, la crainte, vous savez, on dit la crainte de l'homme, mais c'est une peur, la peur de l'homme, la peur du regard de l'autre sur moi, qui va aussi complètement biaiser mon comportement. Et puis voilà, le jugement, la comparaison, l'impulsivité, le déni, l'orgueil, la médisance, toutes ces manifestations de la peur dans nos cœurs. Et en fait, quand on regarde bien, on peut facilement être totalement prisonnier de la peur. Mais je dirais, pire encore peut-être, c'est la peur qui vient s'immiscer dans notre relation avec Dieu. Je pense que la peur vient, en réalité, quand on n'a pas conscience de l'amour de Dieu pour nous. C'est là qu'en fait, c'est ça le lit de la peur. Et c'est pour ça aussi qu'on fait cette conférence, qu'on n'a pas conscience que Dieu est un bon père. Ou alors on va vraiment le savoir là, mais ça ne va pas venir ici. Du coup, ça ne va pas vraiment influer sur qui nous sommes, sur le fait que nous sommes ses enfants. La peur, c'est un symptôme d'une plus grande réalité. J'ai perdu la connexion avec mon père. J'ai perdu la connexion avec le Dieu qui contrôle le monde entier et qui peut tout et qui est bon. C'est vraiment cette peur, j'appelle ça cette peur cardinale, la peur des peurs en fait. L'angoisse de séparation avec le Père. Et c'est vraiment moi ce que j'ai vécu quand je vous racontais avec cette histoire du petit bébé en plastique, cette angoisse de séparation, cette angoisse de je ne suis pas voulu, je ne suis pas aimé par mon Créateur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de terrible qu'il nous faut régler dans nos vies. Parce que c'est trop toxique, ça fait trop de mal. Waouh. Et puis, comme je le disais un petit peu au début, donc ça, c'est vraiment entre le Père et nous, la peur entre le Père et nous. Mais il y a aussi cette peur qui nous empêche de rentrer dans l'appel de Dieu pour nous. Ça peut agir comme un obstacle, on l'a dit, à la vie de Dieu en nous. Ça peut nous bloquer dans beaucoup de domaines, par exemple la guérison. Et c'est vrai que si tu as peut-être prié pour des malades, peut-être avec des proches à toi qui étaient malades et tu n'as pas vu la guérison, eh bien en fait le mensonge qui peut venir en toi, c'est que Dieu n'est pas vraiment bon, Dieu ne veut pas vraiment guérir. Il y a comme cette anxiété, cette angoisse, cette peur qui viennent en fait, je dis que Dieu est bon, que Dieu guérit, mais en fait intérieurement, réellement, je ne le crois pas. Ça peut aussi peur de, vous savez, souvent on parle d'évangéliser, etc. On est pétrifié d'aller dans la rue, on est ou même dans notre travail ou n'importe où. On a peur de partager notre foi, on a peur d'apporter des prophéties, des paroles de connaissance, et on a peur d'être disponible pour les autres. Et souvent, vous savez, la peur, du coup, on parle du fait de qu'est-ce qu'on peut faire avec Dieu, avec tout ça, la peur est très mauvaise conseillère. La Bible nous dit que c'est la paix qui doit gouverner toutes nos décisions. La paix qui doit gouverner toutes nos décisions. Mais bien souvent, si on s'examine, on se rend compte que ce n'est pas la paix qui gouverne nos décisions. Ce n'est pas la paix, notre conseillère pour prendre les décisions importantes de notre vie. C'est la peur. Moi, je me rappelle, oui, il y a de la sagesse dans ça, mais il y a des gens aujourd'hui, ils se disent, ah non, moi, il me faut un travail. Avant de se marier, avoir des enfants, le travail, tout ça, la sécurité financière. En fait, oui, il y a de la sagesse dans ça, mais si on réalise bien, en fait, c'est qu'on a peur. On a peur du manque. On a peur que Dieu ne va pas, en fait, pourvoir à nos besoins. Et merci, Seigneur, ça m'a tellement béni de réaliser ça avant, justement, de me marier. Quand on s'est marié avec Emmanuel, on était tous les deux étudiants, on bénéficiait du pôle emploi, mais on sentait que c'était le moment pour nous de nous marier. On l'a fait et Dieu a toujours pourvu, toujours été là, même miraculeusement à des moments. Et que ce ne soit pas la peur qui conduise les grandes décisions de ma vie. Amen. Donc ça, c'est un peu le constat. Waouh, ce qui est extraordinaire, c'est que le Dieu de paix, le Dieu d'amour peut nous libérer de tout ça. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse régulièrement, parce qu'on va vivre des choses avec Dieu, mais l'ennemi peut venir encore des mensonges, des événements. Il va se passer des événements qui vont venir encore nous mettre des petites choses et amener des peurs encore dans nos cœurs. C'est pour ça qu'il faut sans cesse, la repentance, ce n'est pas une fois. La repentance, ce n'est pas un jour, pardon Seigneur, et après, ça y est, tout va bien, je passe à autre chose. Non, la repentance, c'est vraiment quelque chose de quotidien. Seigneur, viens toucher mon cœur par ton amour afin que mes pensées soient transformées et que je vois ma vie, je vois le monde comme toi tu le vois. Amen. Vous êtes toujours avec moi ? C'est la session de l'après-midi, les amis, vraiment. Allez, on y va, on va y arriver ensemble, je vous promets. Donc, comment savoir si la peur conduit ma vie ? Eh bien, je pense que Timothée, vous savez, le disciple, entre guillemets, de Paul, vit cela. Et vous savez, il y a ce verset connu qui dit, dans 2 Timothée 1, versets 6 et 7, « Ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. » Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Et donc, en fait, pour savoir si notre vie est conduite par la peur, eh ben c'est facile, il suffit de regarder concrètement l'opposé de la puissance, l'amour et la sagesse. Et du coup, peut-être que dans ta vie, parfois tu te sens faible, tu as l'impression d'être vraiment victime des situations, tu as l'impression de ne pas avoir de pouvoir sur les situations, comme si ta vie se passait devant toi et que toi, tu n'avais pas vraiment le pouvoir de la changer, de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez ce sentiment, c'est un peu comme il y a des gens qui se baladent avec un Doberman, mais le Doberman est beaucoup plus musclé que la personne qui le balade, alors la personne comme ça est un peu tirée de partout. Et c'est vrai que la peur peut agir comme ça, comme... Et nous faire nous sentir faibles. Peur, amour et sagesse, peut-être que tu as du mal, l'inverse de l'amour, peut-être que tu as du mal à ressentir l'amour au quotidien. Peut-être que c'est dur pour toi de te sentir aimé, peut-être qu'avec certaines personnes ça va, mais dès que tu penses à Dieu le Père, tu as comme cette difficulté à ressentir l'amour de Dieu. Et puis, comme je l'ai dit, sagesse, eh bien, peut-être que tu as pris des décisions, vraiment des mauvaises décisions, quoi. Tu dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Mais c'est tellement bête d'avoir pris cette décision. Et parce que ben voilà, quand on est dans la peur, on fait des bêtises souvent, on va être dans la précipitation et on va prendre des mauvaises décisions parce qu'on est conduit par la peur. Peut-être que ça n'arrive qu'à moi, mais peut-être pas. Et du coup, l'antidote, comme on l'a dit, c'est vraiment d'expérimenter l'amour du Père. Il y a ce verset qui est vraiment le... Si vous devez retenir un seul passage de la Bible, bien sûr... Alors attendez, parce que ça a peut-être... Je suis peut-être en retard sur mon PowerPoint. Ah, je ne sais pas ce qui se passe. Bon, c'est pas grave, c'est très joli. Merci Héloïse encore. L'antidote, c'est expérimenter l'amour du Père. 1 Jean 4... Ah, merci. 1 Jean 4, verset 18. Ah mais non, mais c'est très bien ça en fait. Voilà, on va laisser ça. 1 Jean 4, verset 18. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, car l'amour véritable ou alors l'amour parfait chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective du châtiment. Et je m'arrête là, je pense que les pharisiens dans cette histoire, il y a la perspective de vraiment d'être puni par Dieu, que si on ne respecte pas l'amour de Dieu, on va être puni par Dieu. Donc c'est ça. En effet, la crainte suppose la perspective de la punition, du châtiment. Mais l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Et ça, je vous promets les amis, c'est tellement vrai et je l'ai expérimenté de tellement de manières différentes. Quand on est dans la peur, c'est qu'il nous manque une expérience de l'amour de Dieu. Et pas encore une fois, pas là, vraiment ici, dans nos entrailles. Et ça m'est arrivé, je me rappelle une fois, je sais pas, des fois c'est facile et rapide, je vous donne ce petit tip, cette petite solution. Une fois j'étais à un feu rouge et je ne sais plus, j'étais pris dans mes pensées de comparaison avec des personnes et j'étais pas bien et je me disais, Seigneur, et j'étais vraiment angoissé par ça. Et je me rappelle, je me revois, c'est marrant, encore à ce feu rouge à Montélimar. Et j'avais dit, mais Seigneur, j'ai besoin maintenant que révèle-moi ton amour, Seigneur, j'ai besoin de ton amour. Et c'est incroyable comme de demander ça, demandez, vous recevrez, comme si l'amour de Dieu venait en moi, et cette angoisse, cette peur est partie instantanément. Et waouh, l'amour de Dieu est venu, tac, j'ai pu continuer ma journée, continuer ma tournée. Alors des fois, c'est aussi simple que ça. Les amis, comme on vient de le lire, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, un esprit, dans d'autres traductions, de peur ou un esprit de lâcheté. Donc ça veut dire que la peur est un esprit. Mais si la peur est un esprit, ça veut dire que par l'esprit de Dieu, tu peux chasser cette peur. Donc je t'invite, mon ami, Parle en langue. Si tu parles en langue, parle en langue. Invite l'Esprit de Dieu à venir te remplir vraiment, à te baptiser à nouveau. Et là, la peur ne peut pas rester. Ne peut pas rester. C'est mécanique. Elle s'en va. L'amour parfait bannit la peur. C'est automatique. Et après, je ne vais pas vous le lire en entier, mais il y a ce passage de Éphésiens 5, verset 1. Je vais vous lire de début. « Puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu, suivez l'exemple de votre Père. Que toute votre vie soit dirigée par l'amour. » Et ensuite, ce passage nous donne quelques clés. Que notre vie soit dirigée par l'amour. Si ma vie est dirigée par l'amour, ma vie ne sera pas dirigée par la peur. Et qu'est-ce que nous dit ce passage dans les versets qui viennent ? Donc, que votre vie soit dirigée par l'amour. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il nous dit ? Exprimez plutôt votre reconnaissance envers Dieu. La reconnaissance, les amis, vous allez voir, c'est très difficile d'être angoissé, d'être dans la peur quand vous êtes dans la reconnaissance. Quand vous voyez tout ce que Dieu fait dans votre vie, des fois ça m'arrive, comme je vous dis, je fais une pause et je dis, mais Seigneur, merci, merci pour ma famille, merci pour mes enfants, merci pour ce que tu me donnes de vivre au quotidien, merci pour mes amis. Waouh, mécaniquement, ça va chasser la peur. Un peu plus loin, il est dit au verset 8, « Comportez-vous donc comme des enfants de lumière. » Vous savez, les amis, le lit de la peur, bien souvent, c'est l'obscurité dans nos cœurs. Et qu'est-ce que c'est l'obscurité dans nos cœurs ? C'est quand on garde les choses pour nous, quand on garde nos péchés cachés en nous, quand on n'en parle pas. Et l'antidote de ça, c'est de faire venir la lumière dans vos cœurs. Va voir ton ami, parle-lui, confesse-lui. Qu'est-ce que tu as fait comme mauvaise chose ? Confesse-lui tes peurs, ouvre ton cœur à quelqu'un. Et là, la lumière de Dieu vient, et là, comme par hasard, pareil, la peur s'en va. Vous savez, c'est comme si quand tu dis la chose, quand tu l'exprimes, quand tu la partages à quelqu'un, plutôt que qu'elle soit en toi, la chose, tu l'as dit, elle sort de toi et elle devient là comme quelque chose qui est visible. Et là, tu vois la chose et là, tu peux t'adresser à elle et vraiment la combattre par la bonne arme de l'amour de Dieu. Amen. Un peu plus loin, il est dit, laissez-vous constamment remplir par l'Esprit. Ça, c'est tous les jours. Tous les jours, on a besoin d'être rempli par l'Esprit. De vraiment laisser le Saint-Esprit nous baptiser à nouveau. Le baptême du Saint-Esprit, pareil, ce n'est pas que quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose qu'on est appelé à vivre chaque jour. Vous savez, il y a ce verset qui dit « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis de l'Esprit. » Continuellement. Après, il y a écrit, verset 19, « Encouragez-vous. » Encourager mutuellement par des chants, des psaumes, des hymnes, etc. L'encouragement aussi, c'est tellement important. Et ça nous parle de quoi ? Des relations. Qui tu as en relation avec toi, autour de toi ? Est-ce que tu as des gens qui vont renforcer tes peurs, qui vont venir toujours te parler de ce qui ne va pas, qui vont toujours te parler des événements terribles qui se passent dans le monde ou dans leur vie ? Ou est-ce que tu es entouré de gens qui vont sans cesse te pointer à Dieu, à lui, à son amour, à qu'est-ce qu'il peut faire, à te bénir ? Et ça, j'adore, je ne crois pas qu'il soit là, mais qu'est-ce que j'aime notre cher papa Antoine parce que... Voilà, moi souvent je dis « Ah mais oui, mais il y a tel problème, il faut qu'on s'occupe de ça. » C'est pas grave, mon fils, c'est pas mon père, mais c'est un peu, c'est, je le refais bien. C'est pas grave, mais tu sais, Dieu est bon, on va prier pour ça. Merci Seigneur. Bon, c'est un peu énervant des fois, du coup, il dit « Bon, t'as raison, allez, arrêtons de parler de ça, remercions Seigneur. » Mais de qui tu es entouré ? De qui, avec qui tu passes du temps ? Qui a une influence dans ta vie ? Et ensuite, verset 19 aussi, louez le Seigneur, et je le joins à la fin du verset 20, remerciez Dieu. Encore une fois, la louange, la reconnaissance, quand on est dans cette... tout simplement quand nos regards sont fixés sur Jésus, la peur ne peut pas rester. Parce que quand nos regards sont fixés sur lui, quand on est dans sa présence, on est transformé à son image, de gloire en gloire, transformé en l'image du Fils bien-aimé du Père. Amen. Amen. Du coup, j'ai vraiment un cœur qu'on prie par rapport à la peur. Priez par rapport au jugement maintenant. Sam, si tu peux revenir au piano, s'il te plaît. Laurent, la guitare. Merci, Laurent. Voilà, j'ai vraiment... Il n'y a rien de magique dans la guitare ou dans le piano, mais on a envie d'être dans des conditions vraiment propices à ouvrir nos cœurs à Dieu. J'ai vraiment envie qu'on prie pour ça. Je pense que je sais que le Saint-Esprit a parlé à plusieurs personnes par rapport à la peur, par rapport à ce rocher qui obstrue ta vie, par rapport à ce lien, cette chaîne qui te tient prisonnier. Parce que Dieu est un Dieu d'amour. Il ne veut pas que ses enfants soit tenu comme ça. Il ne veut pas que ses enfants ne puissent pas rentrer dans cette vie merveilleuse qu'il a pour eux. Il veut nous libérer de la peur. Amen. Et du coup, on va prier dans ce sens-là, mais vous savez, bien souvent, la peur, comme je l'ai dit, ça vient des blessures dans nos cœurs, des blessures qui ne sont pas guéries. Et il y a cette citation que j'aime bien aussi qui dit que si, ce que tu fuis te suit, mais ce à quoi tu fais face s'efface. Et vraiment, j'aimerais vous inviter maintenant à fermer les yeux. Fermez les yeux et on va inviter la présence de Dieu encore à venir. Parce qu'on ne veut pas fuir cet après-midi. Dieu nous a pas